Embarquement immédiat pour G comme Odéon. L'émission des Good Gone qui cause culture sur lyondemain.fr.
Cette semaine, les Good Gone se plongent avec délectation dans la belle langue, la poésie visuelle et la musique. Munis de leur radar à débusquer les pépites culturelles, les Gone font le pari de vous proposer une parenthèse pour oublier quelques minutes les tumultes du monde, les fracas des conflits et les discours politiques stériles. Au programme cette semaine, le Cyrano Project de et avec Jérôme Sauvion à l'affiche de la Comédie Odéon jusqu'au 23 avril. Gaëlle nous entraînera sur la colline à la Fondation Renault au Fort de Vaise pour une exposition consacrée à l'art brut. Guillaume nous fera découvrir un ovni, le collectif Astérotypie. Je ne vous en dis pas plus. Et bien entendu, nous terminerons par nos Gédéons, nos coups de cœur du moment. Et tout de suite, nous débutons avec Jérôme Sauvion, à l'origine de la compagnie Face Nord. Nous l'avons rencontré hier soir à la sortie de scène pour parler de Cyrano Project, un seul en scène adapté de la pièce d'Edmond Rostand. Oui, oui, vous avez bien entendu, un seul en scène. Il est seul et à l'affiche de la Comédie Odéon jusqu'au 23 avril. On vous recommande, c'est un spectacle époustouflant, absolument incroyable. Incroyable de vivacité.
Cyrano Project, il est né d'une grande envie de jouer le rôle. Pas que j'ai toujours voulu le jouer, mais bon, ça fait un moment que ça traîne et puis j'ai pas un physique de l'emploi. Et donc du coup, on me le proposait jamais. Et arrive un moment où l'âge aidant, on se dit, soit on le fait, soit on oublie. Et puis la Face Nord Compagnie, donc qui est ma compagnie et qui signe ce spectacle, elle n'a pas beaucoup d'argent, n'est pas beaucoup soutenue. Donc j'avais déjà réfléchi à une version à 10 comédiens, mais ça restait vraiment trop cher. On est descendu à 5. Et puis à 3, et puis en fait, de fil en aiguille. J'avais vu un copain qui avait joué le Roméo et Juliette tout seul, dans une mise en scène totalement différente, mais je me disais, tiens, c'est jouable. Et j'en ai parlé autour de moi, et les gens m'ont dit, c'est une super idée. Et quand on vous dit, c'est une super idée, vous vous sentez un peu obligé d'aller au bout. Voilà, on n'a pas trop le choix. Donc du coup, le Cyrano Project est né, sous la mise en scène de Caroline Boisson, qui a fait des miracles, qui m'a fait travailler... et qui m'a, on en parlait tout à l'heure, qui m'a forcé à des coupes. Parce qu'on n'a pas, il faut être honnête, on n'a pas le texte intégral. Mais
la pièce dure combien de temps, Jérôme ?
La pièce dure 1h30, donc ça fait 1h15 de texte en moins à peu près. Mais l'essentiel est gardé, surtout coupé dans l'acte 4 et 5, où on resserre énormément sur le trio Cyrano, Roxane, Christian. Parce que Edmond était sympa, mais il s'écoutait beaucoup écrire, je pense. Et donc du coup, voilà.
C'était un peu l'époque, on écrivait comme ça.
Oui, l'époque le voulait, effectivement. Et puis de toute façon, c'était aussi une réponse à ce qu'on a là maintenant, c'est-à-dire les écrans. À cette époque-là, il n'y avait pas d'écran. Donc du coup, quand ça s'installait sur la longueur au théâtre, c'était normal parce que il n'y avait pas le divertissement n'était pas le même.
C'est une pièce qui est tout à fait romanesque. On va raconter, allez, un tout petit peu l'histoire, mais Cyrano, bien sûr, est un écrivain, un poète, un rêveur, mais il n'a pas le physique de l'emploi.
Il n'a pas le physique de l'emploi, et surtout pas le physique, selon lui, de l'emploi d'un amoureux. Et il est amoureux de cette femme qui est sa cousine par procuration. En fait, c'est une orpheline qui a été recueillie par sa famille. C'est Roxane. Il est très amoureux de cette femme-là. Seulement, il n'ose pas lui dire parce que il s'estime laid, très laid dans son physique, avec un nez très ingrat. Mais par contre, il est magnifique dans son âme.
On a parlé de romance, bien sûr, à l'instant. Mais on pourrait parler aussi de politique, avec le non-merci.
Merci. La scène de non merci. En fait, de spectateurs, on a tous un inconscient un peu collectif où quand on dit Cyrano, c'est la scène des nez. Pour moi, Cyrano, c'est avant tout la scène des non merci. Dans cette scène où il dit que nous sommes dans une première partie et voilà ce que nous devrions être dans une seconde partie, sachant que il est tout à fait clair avec ça. La compromission ne peut pas passer outre. On est obligé de faire des compromis. On est obligé de se dire, mes convictions sont celles-ci, mais la réalité, elle est là. Cette réalité m'empêche de vivre à fond mes convictions.
Il meurt et en disant qu'il ne s'est pas compromis.
Et c'est vrai, exactement. Il est conscient, quand je dis qu'il est dans la scène des non-merci, il est conscient que c'est compliqué, d'accord, mais pour les autres, mais que pour lui, ça ne l'est pas. Parce qu'il le dit aussi dans une confidence à Lebrun, il dit « J'ai décidé d'être admirable en tout, pour tout ». Ça veut dire qu'être admirable, ce n'est pas de compromission, je reste droit dans mes bottes. Et jusqu'au bout, effectivement, sachant que il n'est jamais dit dans les didascalies que Cyrano meurt.
Qu'est-ce que c'est qu'une didascalie pour les auditeurs qui ne sauraient pas ?
Didascalie, c'est indication de mise en scène, indication d'état du personnage, indication des décors.
Qu'écrit l'auteur pour aider le futur metteur en scène, finalement, à faire son travail.
Exactement, tout à fait. Et sachant que chez Edmond Rostand, les didascalies de description de décors, par exemple, c'est des romans. Vous lisez la description de chez Raguenaud au début du deuxième acte, ça n'en finit pas.
Chez Raguenaud, en fait, est un pâtissier traiteur, ouais. On pourrait dire. Il n'est pas que pâtissier, hein, quand même. Hein. Il y a des jambons, enfin, il y a toutes sortes de choses. C'est un cuisinier.
Voilà, tout à fait. Ben, il arrive à en faire carrément un chapitre. Quand on disait qu'il aimait s'écouter écrire, je pense que ça faisait partie du truc. Et en même temps, c'est aussi totalement pardonnable par rapport à quand on voit une telle qualité d'écriture, une sublime poésie, une versification qui se permet la création de certains mots. Bon, malheureusement, ce verbe-là a disparu dans la version du Cyrano Project, mais dans la version originale, on entend « ridicoculise ». Entre ridiculiser et cocufier. Voilà, il s'est permis, Edmond Rostand, pour la rime, mais aussi pour, un peu pour la blague, de réécrire des choses et de créer des mots.
On s'amuse beaucoup, mais on est également ému aussi par cette histoire. C'est toute la beauté, finalement, de ce Cyrano que vous interprétez, avec toute cette modernité. C'est ce que je disais tout à l'heure, on disait c'est plus court, mais c'est aussi plus rapide.
En fait, c'était ça l'idée. C'est, on est sur ce qu'on appelle un chant contre chant théâtral. Bon, alors, pour refaire un peu le pitch, je suis vraiment tout seul sur scène et je fais 90% des personnages qui sont restés de l'écriture originelle. Oui. En fait, on a travaillé avec Caroline Bosson sur ça. C'était géographiquement sur scène. On plaçait tel personnage à un endroit et puis 1m50 à côté ou 50 cm à côté, il y a un autre personnage. Donc déjà, géographiquement, le personnage est situé, sachant qu'il peut y en avoir 3, 4, 5, etc. Et puis, il est situé aussi soit par une gestuelle et une façon de parler très particulière, soit par un objet qui le fait exister. Lignière, le poète maudit alcoolique, il a juste sa bouteille vide, évidemment. Enfin, plein de petites choses comme ça qui font qu'en un clin d'œil, on réussit à faire passer le personnage à un autre, sachant qu'il y a certains personnages qui ne sont juste définis que dans leur gestuelle. Essentiellement, ce sont Cyrano, Roxane et Christian. C'est contenté d'une gestuelle très précise. Un petit geste et puis voilà, le personnage existe.
Vous tournez cette pièce depuis quelques années et vous êtes même allé en Haïti.
Vraiment une aventure parce que voilà, ce qu'on nous montre d'Haïti est loin d'être la vérité. On a vu des choses assez terribles et puis des choses sublimes, magnifiques, des paysages qui sont très beaux, mais voilà, bah, c'est un pays qui a souffert, c'est un pays qui a vécu des années et des années pendant des siècles, même sous le joug de l'esclavagisme, qui a été le premier pays à s'en libérer, mais qui n'arrive pas à s'en affranchir. Donc, Européens, on était des cibles privilégiées. Quelques mois auparavant, il y avait une ressortissante française qui avait été enlevée. Ils avaient dû payer une rançon. Enfin, le consulat avait dû payer une rançon. Donc, du coup, c'était hors de question de nous faire prendre ce genre de risque-là. On jouait pas forcément avec tous les projecteurs. On jouait pas forcément avec tout le son. Et pourtant, ça existait parce qu'on a affaire à des gens dans un pays qui sont très amoureux de la langue française, alors qu'ils en veulent énormément à la France. Mais la langue française, c'est quelque chose qui reste vraiment très, très présent là-bas. Et un vrai combat pour les gens qui aiment cette langue là-bas.
Merci beaucoup, Jérôme Sauvion. Je rappelle à mes auditeurs qu'on peut vous retrouver dans Cyrano Project. Et en effet, on retrouve la très belle langue d'Edmond Rostand. Le Cyrano Project de Jérôme Sauvion est à voir à la Comédie Odéon tous les soirs du mardi au samedi à 19h jusqu'au 23 avril. Poursuivre, Gaëlle, avec une exposition à la Fondation Renault au Fort de Vaise. Il s'agit d'art brut, je crois, Gaëlle.
Exactement. L'exposition Les Brutes à la Fondation Renault, donc localisée au Fort de Vaise. Achevée en 1848, le Fort de Vaise, tout comme les forts Saint-Jean et Loyas, protégeait initialement Lyon avant de devenir un espace artistique porté par une dynamique programmation. Les frères Serge et Jean-Jacques Renault, R-E-N-A-U-D, à ne pas confondre donc avec une quelconque marque de voiture, achète le Ford Vez en 1982. La Fondation Renault, créée en 1994, accueille actuellement les Brutes, une exposition proposée par l'association Art Brut en Compagnie, dont le président Alain Moreau assure le commissariat de l'exposition. Passionné par l'art brut, c'est dans les années 80 qu'il initie sa collection, aujourd'hui riche de 70 artistes. L'exposition Les Brutes puise aussi dans la collection de la Fondation Renault, qui regroupe plus de 8000 œuvres des arts lyonnais de 1880 à nos jours. L'art brut Kezako. En 1945, l'artiste Jean Dubuffet crée la notion d'art brut qui désigne les ouvrages exécutés par des personnes indemnes de culture artistique. Personnes ordinaires ou marginales, pensionnaires d'hôpitaux psychiatriques ou personnes porteuses de handicap, les créateurs d'art brut, grands autodidactes, ne se définissent parfois pas eux-mêmes comme des artistes. C'est le marché de l'art qui les nomme comme tels. Après la Seconde Guerre mondiale, Jean Dubuffet fait polémique en exposant des œuvres contre l'élitisme artistique et s'intéresse à l'art brut dont il devient collectionneur, tout comme Alain Moreau, instigateur de l'exposition Les Brutes. Naviguant entre art primitif et art naïf, art en marge et art hors les normes, les œuvres faites d'assemblage, de bricolage, de détournement de fonction première des objets jouent sur un libre mélange de matière et de genre. Dénuées de tout conditionnement, ces créations sans filtre sont animées par une ardente expression instinctive. C'est en récupérant des éléments familiers et des objets de leur quotidien que les artistes bruts créent. L'exposition Les Brutes met en avant cette vigueur plastique autour de 5 créateurs vedettes accompagnés d'autres représentants. Pour les artistes spécifiquement mis à l'honneur, un espace important consacre André Robillard, particulièrement collectionné par Alain Moreau. André Robillard réalise d'incroyables fusils avec des matériaux de récupération glanés dans une décharge d'hôpital, mais aussi des spoutniks suspendus à partir de lessiveuses en fer. Guy Brunet réalise des figurines de célébrités des univers cinématographiques et musicaux à partir de bois de palette. Joseph Donadello crée des sculptures en ciment pour le bord de la route. Les deux dernières vedettes sont Yves-Jules Fleury, qui offre une relecture de célèbres portraits de l'histoire de l'art. Vous verrez des De Vinci, des Vermeer, et Serge Delaunay, le dessinateur intergalactique. Au-delà des 5 vedettes, on peut citer Mirlande Constant, haïtienne avec ses vaudou drapeaux, qui sont des oriflammes dorées superbement brodées avec la technique du perlage. Philippe Dereux, qui a rencontré Jean Dubuffet en 1955, est présent avec son œuvre en forêt. Je vous défie de trouver le matériau utilisé. C'est un collage d'épluchures peintes. Philippe Dereux savait qu'il avait fini une œuvre lorsqu'elle le lui disait. Comment ? Après avoir passé 10 repas complets en face de l'œuvre, il ne devait plus ressentir de malaise et savourer la satisfaction ainsi atteinte. Coup de cœur pour l'univers miniature de jouets en bois du couple Pierre et Raymonde Petit. Lui était scieur et elle couturière. Leurs jouets en bois sont réalisés à partir de chutes de bois de récupération, puis sont peints. Chaque pièce est confondante de charme, d'enchantement et d'émerveillement. La couture est présente, ça et là, avec des petits pots de fleurs en tissu qui viennent agrémenter les jouets. Sachez que leur série dédiée au cirque Pinder a été achetée par le Musée des Arts Décoratifs de Paris pour l'exposition « Le cirque et le jouet » en 1984. Pour tous ces artistes d'art brut, je vous recommande vivement d'être attentif aux écrits sur certaines œuvres et aux titres. La truculence de textes et de jeux de mots va vous réjouir. À noter, une conférence sur l'art brut est programmée le 13 avril et sera donnée par Sarah Lombardi, directrice de la collection de l'art brut de Lausanne. Parallèlement à l'exposition, sachez que vous pouvez visiter les souterrains du Fort de Vez avec l'OCRA, une association de cataphiles. Cataphiles, ce sont des fans de galeries et de cavités. Ils vous attendent. L'exposition Les Brutes est à voir à la Fondation Renault Fort de Vez jusqu'au 24 avril 2022. Plus d'informations sur fondation-renaud.fr.
Merci beaucoup Gaëlle. Tu nous fais découvrir non seulement un lieu, mais également son contenu, aussi bien souterrain qu'aérien. Effectivement, il y a des jolis jardins aussi à la Fondation Renaud. C'est un bel endroit à découvrir. On y va trop rarement. En pensant que c'est un peu loin, pas du tout, c'est au métro Valmy, on monte un petit peu, c'est une jolie balade et il faut absolument s'y rendre. Merci beaucoup Gaëlle. Guillaume, cette semaine, tu nous proposes une découverte, un collectif puissant avec une énergie communicative.
Alors oui, Astéro Tipeee. Ce n'est pas tout à fait une découverte parce que ça va être bientôt, le 29 avril, leur troisième album. Alors pourquoi c'est un groupe un peu hors norme ? Parce que ce sont quatre jeunes autistes d'un centre donc, médico-éducatif de la région parisienne et qui font de la musique et qui écrivent surtout des textes puisqu'ils sont... entouré de musiciens, certains qui sont issus du groupe Moriarty qu'on connaît bien. Et oui, c'est un groupe complètement hors norme parce que voilà, les textes sont à la fois poétiques, politiques, mais aussi voilà, complètement barrés quoi en fait. Voilà. Et le prochain album s'intitule quand même avec ce titre un petit peu dingo, Aucun mec ne ressemble à Brad Pitt dans la Drôme. Évidemment, avec un titre pareil, on se dit qu'on va vers l'étrange. Mais voilà, et c'est très, très rock, c'est très même punk rock, parce que sur scène, vraiment, il se donne. Alors évidemment, la musique comme Exutoire, comme Libération, oui, ben, c'est un petit peu assez banal. Mais pour ce type de personnes, voilà, qui effectivement sont peut-être porteurs d'un handicap, je ne sais même pas si on doit dire que l'autisme est un handicap, moi je ne suis pas sûr. Ça me touche énormément parce qu'il se trouve que j'ai eu comme élève un élève qui est autiste. Et c'est un de mes meilleurs souvenirs d'enseignant parce qu'à chaque fois que j'ai fait des concerts au lycée, eh bien, voilà, il se donnait à fond. Voilà. C'est quelqu'un qui a déclamé du Raymond Devos voilà, en 2017. Voilà, un petit jeune adolescent qui connaît Raymond Devos et qui voilà.
Donc, ouais, en y fait, a une sensibilité évidente.
Voilà, une sensibilité qui est vraiment exacerbée. Et Astérotypie, c'est vraiment ça. Évidemment, il faut aller voir leur dernier clip là, qui est complètement dingue.
On le mettra en lien.
Voilà, avec donc un personnage qui va au fin fond de la galaxie avec son petit chien Estia. C'est Zita et Estia qui s'envolent vers des nouvelles galaxies. Et c'est assez dingo quoi. Donc c'est une musique pour faire la fête, pour danser, mais en même temps avec des textes qui font réfléchir. Le prochain single s'intitule Le Pacha, il va sortir très prochainement, juste avant, entre les deux tours des élections là, et je pense que on va beaucoup en parler. Donc vraiment c'est un groupe à part entière. Il va y avoir une tournée française, pour l'instant il va y avoir un concert à Paris au FGO Barbara le jeudi 5 mai, mais bon, on attend la tournée, on espère qu'ils vont passer et par la Drôme et par la région Auvergne-Rhône-Alpes, voilà. Et donc on va écouter ce titre complètement barré qui est le premier single, Aucun mec ne ressemble à Brad Pitt dans la Drôme.
Aucun mec ne ressemble à Brad Pitt dans la Drôme. Mais Kevin, un crétin de Secret Story 3, oui. Il paraît qu'il a coupé ses cheveux, c'est un imbécile. Mon cousin par alliance, par moment, ressemble à Brad Pitt. Mais il n'a pas les mêmes muscles. Michael Vendetta ne ressemble pas à Brad Pitt, même s'il est blond. Il est nunuche, c'est un connard, il ne mérite pas de gagner la fame de célébrité. Son métier, c'est de faire le buzz. Il a la même voix que Sting dans le dessin animé Fairy Tail. Je partageais ma chambre avec ma copine Léa, qui ressemble à Scarlett Johansson en rousse. Nicolas, mon mono de ski à la plage, ressemble à Hayden Christensen. Je crois qu'il est célibataire, mais je n'avais pas le niveau de ski pour me marier avec lui. Je ne l'oublierai jamais. Aucun mec ne ressemble à moi, qui est dans la drogue. Jared Leto, Claire ressemble à Oda de la Star Academy 4, Mathilde à Lily Cole, Celia à Erika Durrens qui joue dans Smallville, Christophe ressemble à Samir, le cousin de Benzama, qui apparaît dans Hollywood Girls. On l'aime pas trop, il est con. Il s'était accouplé avec Aurélie dans L'île des Vérités. Aucun ami ne ressemble à Bradley Cooper. Peut-être un jour, ce sera la surprise. Aucun ami ne ressemble à Bradley Cooper.
On vient d'écouter Guillaume, ça chauffe. Hein.
Ah oui, ça bouge beaucoup. Il y a quand même des gros riffs de guitare. Donc aucun mec ne ressemble à Brad Pitt dans la Drôme du collectif Astérotypy. Bientôt, enfin moi, dans l'album qui sort le 29 avril, moi il y a un autre texte que j'adore. Mon chat a 44 ans et ça fait vraiment du bien en fait d'entendre ces jeunes ou un peu moins jeunes parce qu'ils ont quand même sorti leur premier album en 2012. On est en 2022.
Ouais, ça fait déjà 10 ans,
voilà. Mais ils restent jeunes dans la tête, voilà. Et donc c'est vraiment un groupe extraordinaire. Donc on espère vivement de les voir sur scène ici dans la région prochainement.
Merci beaucoup Guillaume. On termine notre émission avec, comme à notre habitude, eh bien, nos coups de cœur, nos petits Gédéons derrière les fagots. Gaëlle, c'est toi qui commences, c'est toi qui as l'honneur de commencer cette semaine.
Alors, mon Gédéon de la semaine est un rappel de l'exposition sur la piste des Sioux au musée des Confluences. Pour tordre le cou à l'image très réductrice que nous avons des Sioux, sortir des stéréotypes, des clichés, voire des fantasmes suscités par ces Indiens, allez voir ou revoir sur la piste des Sioux. Il existe aujourd'hui près de 547 tribus indiennes aux États-Unis. Or, pour citer Walter Little Moon, descendant d'une famille de Lakota ayant participé à la tournée européenne des spectacles de Buffalo Bill, Hollywood ne les a jamais considérés en tant qu'individus ou petits groupes d'individus, mais plutôt comme un grand ensemble. Le musée des Confluences s'attache ainsi à dévoiler une histoire plus authentique des Sioux, ainsi que leurs symboles, leur spiritualité et leur sagesse. Porté par le rythme obsédant et hypnotique de tambours tels les battements du cœur des Sioux, la scénographie est d'ailleurs remarquable, vous découvrirez Tipi et Bison dans un magistral diorama dès l'entrée d'exposition, de superbes coiffes au montage complexe et sophistiqué de plumes, ainsi que des calumets, costumes et bijoux servis par de magnifiques techniques de perlage. Un bel hommage rendu aux Sioux grâce à la présentation d'un fond conséquent, doublé d'une constructive remise en question d'un imaginaire que l'Occident a construit autour de ces Indiens. Jean-François Courant, chargé d'exposition, souligne qu'en France, nous convoquons d'ailleurs tout spécifiquement la sagesse des Indiens pour nous guider. Que ferions-nous, en effet, sans les prévisions du trafic bison futé ? L'exposition sur la piste des Sioux est à voir au Musée des Confluences jusqu'au 28 août 2022. Plus d'informations sur museedesconfluences.fr.
Merci Gaëlle. Guillaume, tu prends la suite. Qu'est-ce que tu as dans ta musette ?
Alors moi, j'ai un petit peu quelque chose de particulier parce que il n'y a pas très longtemps, je suis allé déjeuner dans un restaurant de la Croix-Rousse qui s'appelle Livry. Et Livry va faire une soirée consacrée aux disques à chier. Et donc, j'ai trouvé d'abord l'affiche très belle. La graphie de l'affiche est vraiment très chouette. On la mettra sur le site. Mais voilà, Lolo, l'ancien du comptoir du vin qui a ouvert Livry, voilà, me dit, voilà, faut absolument venir cette soirée le vendredi 15 avril. Il y aura une cinquantaine de disques à chier qu'on écoutera tous ensemble.
Boucle.
Et il y aura quelques mix aussi.
Alors qui a choisi ces disques? Comment se fait la sélection?
Je pense que c'est le patron et je pense qu'à mon avis, il y en a un bon paquet de disques à chier. D'ailleurs, des plus anciens aux plus récents, je pense que voilà, il n'y a que l'embarras du choix.
Rappelle-moi la date de cette soirée,
c'est le vendredi 15 avril, c'est au restaurant Livry, c'est 7 rue Livry, donc à la Croix-Rousse, dans le 4e arrondissement.
Merci beaucoup Guillaume. On va terminer donc avec mon coup de cœur du moment, un film que j'ai eu l'occasion de voir la semaine dernière. Ça s'appelle « Seule la terre est éternelle » de François Bunel et Adrien Solan. C'est l'histoire d'un homme qui rentre chez lui au cœur des grands espaces. Il raconte sa vie, qu'il a brûlée par les deux bouts et qui révèle une autre histoire de l'Amérique. À travers ce testament spirituel et joyeux, il nous invite à revenir à l'essentiel et à vivre en harmonie avec la nature. Cet homme est l'un des plus grands écrivains américains. Il s'appelle Jim Harrison. J'adore Jim Harrison. Ce film est à voir absolument au cinéma, Le Comédia ou Lumière Bellecourt, puisqu'il n'y a que deux salles qui le diffusent ici à Lyon. Et encore toute cette semaine, j'ai regardé encore au moins jusqu'au 12 avril à voir absolument. Si vous devez retenir quelque chose de la littérature de Jim Harrison, je vous conseille un roman qui s'appelle Dalva, qui est absolument excellent. Il écrit à la première personne et Dalva est un personnage féminin. Donc il est extraordinaire de sensibilité, ce Jim Harrison. Il y a bien sûr le recueil de nouvelles qu'il a rendu célébrissime qui s'appelle Légende d'automne, qui a été également adapté au cinéma. Et puis bien sûr, s'il faut retenir un recueil de poèmes, c'est toujours un deuil de choisir. Eh bien, je vous invite à découvrir Une heure de jour en moins, qui est mon préféré des recueils de poésie de Jim Harrison. Donc je vous rappelle rapidement le titre, Seule la terre est éternelle, de François Bunel et Adrien Solan. Bonne semaine. J'ai comme Odéon est une émission proposée par Gaël Bossier-Lombard et enregistrée à la Comédie Odéon, à retrouver sur liondemain.fr.